Rencontre avec Tatiana Trouvé, quelques jours avant le début de son exposition au FRAC des Pays de la Loire, du 6 juillet au 12 octobre 2008. L'artiste qui a reçu le prix Marcel Duchamp 2007 arrive du centre Georges Pompidou, où vient de s'ouvrir à l'espace 315 son exposition, visible du 25 juin au 29 septembre 2008. Comme vous allez l'entendre, Tatiana Trouvé comment cet entretien sonore en évoquant les dessins et installations ont trait à Paris. Est-ce que peut-être on parle de l'actualité récente, puisqu'il y a une exposition qui a juste commencé à Beaubourg.
Oui.
Comment c'est relié avec celle qui va commencer au FRAC, ici?
Donc, l'exposition la plus récente, c'est celle de Beaubourg, qui s'intitule 4, entre 3 et 2, et qui ne se relie pas du tout à celle-ci, qui est complètement différente, parce que les enjeux le sont. En fait, le titre décrit assez bien ce que j'essaie de mettre en place dans l'exposition de Bobo, qui reprend en fait les trois dimensions. La deuxième dimension, celle du dessin. La troisième, donc de l'espace, l'architecture ou la sculpture. Et la quatrième, celle du temps. Et cette exposition, en fait, est vraiment une sorte de développement pendant la durée d'une exposition, d'un dispositif où, au fait, les dessins se trouvent emprisonnés ou coincés entre la dimension du temps et la dimension de l'espace. Elle se structure un petit peu toute l'exposition comme ça, par des indices qui sont à la fois dans les dessins, dans l'architecture, etc. Au fait, quand on rentre, il y a trois grandes installations qui structurent l'espace, et deux sont en fait de sorte de... Il y a sur un mur un trou duquel s'écoule du sable et qui s'écoule pendant toute la durée de l'exposition. Il y a aussi cette idée qu'au fait, l'espace petit à petit se remplit par l'évidement d'un autre espace, mais qu'on ne peut jamais voir. Donc il y a toujours cette idée qu'il y a toujours une partie ou un espace manquant, une architecture invisible, qui est soit liée à cette dimension du temps, soit tout simplement une autre dimension qui n'est pas forcément perceptible matériellement, mais qui pourrait à la fois appartenir à une dimension de la mémoire, etc. Mais de toute façon toujours liée à cette dimension temporelle. Il y a une série de sculptures en bronze qui reprennent toutes les mêmes lois du dessin, et quand elles ne les reprennent pas physiquement dans l'espace, en tout cas, elles reprennent des formes et des objets qu'on retrouve dans les dessins. Donc il y a toujours des fragments de dessins dans l'espace par ces sculptures-là. Et aussi, des fois, elles prennent vraiment les codes de représentation qui sont liés au dessin, comme la perspective, le dédoublement, l'image dans un miroir, etc., qui sont des codes qui appartiennent pas du tout, en tout cas, ceux de la sculpture. Et pour la première fois, j'ai aussi travaillé avec un matériau que j'avais jamais employé avant, qui est le bronze. Parce que, au fait, dans toutes ces sculptures-là, il y a des dispositifs de fragments d'un instant. Par exemple, il y a une grande corde qui est comme ça figée dans un mouvement. En fait, quand on prend une corde et qu'on l'élance, elle dure que quelques secondes dans l'espace. Et là, elle est complètement figée, mais avec un matériau qui est en plus, lui, le plus longé.
Qui est la plus grande longévité.
Voilà, dans l'histoire même des arts, donc du bronze. Ça me permettait à la fois de réfrigérer des instants et de les rendre suspendus, vraiment éternels dans ces temps-là. Ou de reproduire le plus longtemps possible des choses qui ne peuvent exister que des fractions de secondes. Donc, il y a 5 sculptures en bronze comme ça. Et donc, tout le reste, c'est des dessins. Beaucoup sont de la nouvelle série qui s'appelle Rémanence, qui sont des dessins noir sur noir, où j'ai utilisé des papiers noirs sur lesquels j'ai dessiné soit à la mine de plomb, soit au crayon. Et ça me plaisait assez d'utiliser finalement le dessin à l'inverse de ce qu'il constitue, parce que quand on prend un crayon et qu'on dessine sur un papier, on révèle un espace, on commence à révéler une dimension. Et quand on dessine finalement sur du noir, on engloutit, on efface en même temps qu'on est en train de montrer quelque chose. On l'efface, mais on le fait rentrer dans un espace. Finalement, la feuille noire devient vraiment un espace absorbant, ce que le dessin ne fait Pratiquement jamais, puisqu'on met un dispositif de perspective, etc., pour donner une illusion. Là, en même temps, c'est tout à fait absorbé. Donc voilà, toutes les pièces, que ce soit les dessins, les sculptures, et puis ces grandes installations, fonctionnent comme ça dans des systèmes d'écho, dans lesquels on peut les compléter. Et finalement, on est dans une dimension qui est vraiment celle du temps. Ces lois physiques de la deuxième et la troisième dimension sont liées les unes aux autres par ces lois temporelles. D'où le titre, donc.
Zoom à présent sur l'exposition présentée au FRAC des Pays de la Loire.
Ici, j'ai fait tout un autre type de travail avec l'architecture. J'ai d'abord, au fait, représenté, réarticulé de façon différente des pièces que j'avais produites à l'occasion de la Biennale de Venise l'année dernière. Mais je l'ai, au fait, déployé, réarticulé différemment dans l'espace et surtout en relation toujours avec l'architecture du lieu. D'une part parce que j'ai voulu, comme l'avait prévu l'architecte, une lumière zénitale, de travailler avec cette lumière-là, même si elle ne va pas être suffisante et j'aurais besoin de la soutenir par une lumière artificielle, mais en tout cas, de poser mes pièces dans l'espace en prenant compte de ces ouvertures-là. Et aussi faire un jeu vraiment de cadrage dans cette architecture telle qu'il existait aussi dans le lieu avant. En effet, il y a une fenêtre très atypique et une sorte d'ouverture peinte presque dans l'architecture. Et ma pièce vraiment se construit en écho avec cet espace-là. Il y aura aussi quelques dessins qui vont être montrés en même temps que cette grande installation et qui vont être finalement plus des échos avec d'autres pièces intérieures.
Qui reprennent certains fragments.
Oui, mais vraiment, finalement, c'est des dessins qui appartiennent à une série qui s'appelle Intranquility et qui est une série de dessins. En fait, il y a des univers assez indécis, assez flottants, qui sont des univers qui se structurent toujours sur deux dimensions qui n'arrivent pas du tout à s'affirmer clairement. Et je pensais que c'était assez juste aussi avec le type d'utilisation que je fais de cet espace-là, parce que je donne une place énorme à une installation qui normalement n'en aurait pas du tout besoin, mais parce que j'ai aussi voulu utiliser l'espace comme une sorte de paysage. Alors, en fait, le structurer aussi dans des perspectives beaucoup plus étendues. Pour ça, donc, il y a cette pièce qui est inscrite par aussi tout un travail de plaquage au mur de Formica, qui est une sorte d'écho, parce que la pièce, elle est faite avec le même matériau. Et finalement, ces éléments de mur, de plinthe qui sont vraiment mis en avant, agrandissent encore plus cet espace qu'elle n'en aurait pratiquement pas besoin. Mais du coup, le font basculer dans une dimension qui est encore plus extérieure et déployée.
Donc, on retrouve ces frictions d'échelle et aussi d'espace et de temps entre les collages. Et il me semblait retrouver certaines pièces réalisées, notamment dans l'espace du fond.
Oui.
Comme des espèces de réminiscences.
Oui, en fait, il y a des échos, oui, avec des pièces, mais je ne redessine jamais mes pièces dans les dessins. C'est très, très rare que je fasse. Je les fais dans quelques-uns, mais pas dans ceux qui sont présentés là. Et sont souvent tout à fait retravaillés, déformés. Donc, je pars d'un souvenir d'une pièce que j'avais fait, mais qui ensuite se réarticule et qui est déformée. Il est retravaillé, elle devient tout à fait autre chose. Non, les dessins, c'est encore d'autres façons de travailler les dimensions, les échelles et les paysages. Dans les dessins, en tout cas, dans cela, c'est juste de dire qu'on retrouve le même rapport à l'architecture, un élément dans lequel on rentre, mais on s'en trouve tout à fait aussi à l'extérieur de cet élément-là. On est toujours dans une dimension, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est de l'ordre de l'habitation, de l'intérieur ou de l'extérieur du paysage. Les paysages deviennent des fois des lieux dans lesquels, d'un seul coup, on pourrait les domestiquer ou vraiment y vivre. Il y a un petit peu ce même rapport.
Alors, pour reprendre les éléments qui sont assemblés au fond, les deux questions qui valent aussi pour les collages, les dessins, est-ce que ce sont des objets pour vous autonomes ou est-ce qu'ils valent dans une installation d'ensemble ?
Oui, mais de toute façon, là, toutes ces pièces-là, elles sont complètement autonomes. Elles n'ont plus grand-chose à voir avec le BAI. Ce ne sont pas des modules du BAI. Elles ont été générées, peut-être c'était à l'origine plus lié à l'idée des polders, mais même aujourd'hui par leur échelle, je ne saurais plus vraiment définir si c'est des polders ou pas. Et c'est des pièces autonomes. Mais c'est une autonomie qui est toujours redéfinie, puisque c'est, de toute façon, il y a un rapport architectural tellement fort dans tout mon travail qu'il est toujours redéfini par le lieu qu'il... Oui. Mais elle ne fonctionne pas du tout de façon rhizomatique. Chaque pièce, chaque installation a ses propres lois. Elle se présente de façon très précise à un moment donné. À chaque fois que je les réinstalle, je prends en compte l'architecture, mais parce que c'est une façon que j'ai moi de travailler. Mais la pièce, elle est déjà finie, arrêtée.
Pour cette question de donc l'autonomie, les différentes pièces qui vont être dans l'espace vitrine qui est dans le fond, je ne sais pas trop comment vous le nommez, s'il a un nom, puisque la pièce est sans titre, hein, c'est ça ?
C'est sans titre, oui. Ouais.
Mais est-ce que ces pièces qui donc, ont été présentées à Venise vont être disposées de la même façon ou réarrangées par rapport à l'espace du FRAC ici ?
Non, ça ne bouge pas. En fait, moi je ne considère pas que c'est des pièces présentées dans l'espace vitrine. L'espace vitrine est une pièce, est
d'accord,
une œuvre composée de différents éléments. C'est une sculpture, mais composée de... faite dans un système architectural et composée de différents fragments de plusieurs éléments, mais c'est une seule pièce. Et à chaque fois, elle est remontrée de façon identique, pareil. Il n'y a jamais aucune transformation de disposition ou quoi que ce soit, puisqu'elle a déjà sa forme.
D'accord. Et si on s'arrête sur les éléments, les portes, l'arbre corseté, mm-hmm. je ne sais pas comment on peut dire.
Ouais.
et puis ce rocher au verrou. Oui, c'est ça, hein, ce sont des verrous.
Oui, c'est des poisses, en fait, c'est des éléments en bronze.
Là, il y a évidemment des images très surréalistes qui viennent d'associations de réalités un peu contradictoires comme ça. Et puis, évidemment, le trouble. Bon, l'installation n'est pas finie là, mais ce qu'on peut voir comme image dans votre catalogue, où on a une perception spatiale qui est très difficile entre l'intérieur, l'extérieur, la profondeur, l'échelle. Est-ce que là, il y a en 3D un concentré aussi du trouble de flottement qu'on trouve dans les dessins ?
Oui, absolument. C'est très juste parce qu'en fait, c'est une pièce que j'ai conçue comme un dessin. J'ai vraiment repris. En fait, quand j'ai construit cette pièce à l'Arsenal, j'arrivais à la fin d'un module dans lequel, en fait, il y avait un mur. Et j'essayais de l'imaginer avec ce système de miroirs, etc., pour continuer un espace derrière ce mur. Comme si, en fait, il y avait une continuation dans laquelle on ne pouvait pas forcément y aller. Mais en tout cas, l'architecture ne s'arrêtait pas à quelque chose de physique, d'arrêter. Et cet espace-là était peut-être certainement celui du dessin aussi, en tout cas d'un dessin beaucoup plus mental. Le reste de la pièce s'est structuré vraiment comme un dessin. Et si on regarde bien les objets, il y a une sorte de lit sommier, etc. C'est tous des objets qui ont été réalisés en perspective, qui reprennent vraiment, il y a un certain moment, une sorte d'amalgame avec des choses en formica, etc. Et c'est vraiment des compositions très graphiques. C'est une pièce qui est très, très dessinée dans l'espace. Donc oui, effectivement, on retrouve un peu le même flottement que dans les dessins, la même perte de repères qu'on peut avoir dans les dessins. Et en plus, tout de suite, avec les portes, c'est une échelle qui nous est interdite. En tout cas, on n'a rien à y faire dedans, on n'est pas là pour y rentrer. C'est quelque chose qui est vraiment à l'extérieur d'un corps, finalement. Elle fonctionne en mettant à l'écart le corps, puisqu'elle fait plus appel à une manipulation mentale que physique, en tout cas.
Le statut du spectateur, il est vraiment un observateur extérieur, toujours.
Toujours, oui.
Et dans l'installation, donc plutôt cuisine,
oui.
Donc, il y a aussi où il y a quelque chose de l'ordre du plus familier, même si quand on se rapprochait des détails qui dévient cette sensation de familiarité, il y a aussi ce maintien à l'extérieur par l'échelle Et j'imagine quand ce sera installé dans l'espace du FRAC, par le côté, là encore très flottant, ne rivalisant pas, parce que ces éléments, ils sont petits. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi petits en voyant les photos, mais...
Oui, oui, oui. Effectivement, on est à l'écart. Et on se rend compte aussi que cet objet est presque perdu, parce qu'il est presque posé dans un espace démesuré, et qu'il y a un espace qui semble être produit par lui, puisque le fait tout le mur, tout l'espace est plaqué avec ce formica, dont la pièce elle-même est constituée. Donc en fait, on se rend compte que non seulement il est petit, mais il devient encore beaucoup plus petit, puisqu'il est dans un espace qui devient démesuré par rapport à lui. Donc ce qui m'a plaisé aussi, c'était de jouer cet éloignement aussi avec les échelles et l'architecture. Non seulement celle que la sculpture elle-même impose au spectateur, c'est-à-dire de ne pas la manipuler, de ne pas d'avoir pas grand-chose finalement à y faire. C'est effectivement quelque chose qui à l'origine rappelle des éléments familiers dont on peut très bien resituer la vraie échelle, mais parce que ce n'est plus du tout au même rapport, on se rend compte que finalement on en est assez exclu. Mais cet objet devient lui-même exclu dans l'architecture dans laquelle il est. Donc il y a vraiment... ces objets sont travaillés comme des visions, vraiment des sortes de réminiscences, des choses qui reviennent à nous, déformées parce que la mémoire est complètement imprécise, elle déforme tout. Et ils entretiennent peut-être le même rapport étrange dans l'espace et ce même rapport-là que j'essaye de créer avec le spectateur. Cette distance permet aussi de recréer un lien beaucoup plus étrange avec l'objet. Il n'y a pas d'interactivité, il n'y a pas d'intervention qu'on peut faire, de s'asseoir, d'éprouver les choses physiquement, parce qu'ils n'en ont pas besoin, puisqu'il faut les éprouver de manière différente.
Alors, donc la plupart des œuvres sont sans titre, à part donc la série Intranquillité.
Oui, Intranquillité.
Pour l'exposition, qui a un titre.
Non, il n'y a pas de titre, on reste là.
Et alors, cette position, elle est aussi là pour que le spectateur ne soit jamais contraint ou restreint par une lecture, puisque Intranquillité, c'est un titre qui est générique d'abord et puis très.
Ouais, en fait, c'est un titre générique d'une série de dessins. En fait, les dessins sont souvent titrés, donc il y a Intranquillité, Rémanence, Deployment. C'est trois séries de dessins qui... Oui, c'est un titre de trois séries différentes de dessins. Ici, j'ai voulu montrer des dessins intérieurs à cette série, Intranquillité, parce que je ne les avais jamais montrés. En fait, j'ai aussi montré les dessins que j'ai gardés, moi, de ma collection. Des dessins qui ne seront jamais vendus. Parce qu'en fait, à chaque nouvelle série, je garde des dessins pour moi. Et c'était aussi, voilà, je tenais à voir de montrer ça parce que il y a des choses qui, je crois qu'un artiste garde souvent certaines pièces qui pour lui sont riches dans ce qu'elles peuvent développer ou porter.
Qui sont comme des jalons de projets futurs.
Et c'est un regard qui est toujours un peu particulier parce que c'est structurant pour celui qui l'est fait pour un travail, pour le développement d'un travail. Mais ce n'est pas forcément les pièces qu'on retient ou que la critique ou qu'on nomme les pièces majeures ou pas majeures. Je pense que quand on fait un travail, quand on essaie de constituer une œuvre, il n'y a jamais une pièce qui est majeure par rapport à une autre. Mais d'un seul coup, il peut y avoir une pièce, même si elle est ingrate, auquel on s'attache énormément parce qu'on y voit beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut tirer, développer, etc. Et je voulais, même s'il n'y a pas forcément une cohérence entre tous ces dessins, c'est les dessins où, à un certain moment de mon travail, j'ai voulu ne plus m'en séparer et les garder toujours. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, mais c'était important pour moi d'un jour arriver à montrer ça. Quels ont été les dessins que j'ai voulu garder, parce que je pense que ça pourra permettre aussi un regard de comprendre aussi comment les autres, d'autres choses sont venues après ça.
Donc là, ce qui se confirme quand même, c'est le projet du BAI et des polders qui sont plus mis en avant comme auparavant. ou pas?
Non, non, oui, c'est juste. Mais je pense, en fait, c'était toujours un petit peu compliqué pour moi d'expliquer ça, parce que le BAI, c'était un travail sur lequel j'ai travaillé pendant 10 ans, de façon très active, puisque je n'ai fait rien d'autre que ça. Les polders étaient des petites pièces qui, au départ, étaient dans un des archives de ce BAI. Puis, ils ont commencé à sortir des archives, être présentés en même temps que le BAI. Les premiers polders étaient ils avaient une échelle encore plus réduite que celle qu'ils ont prise par la suite. Et ils se sont développés de plus en plus. Mais à l'origine, c'était vraiment le BAI qui produisait ce genre de pièces. Ils se sont agrandis, c'est devenu carrément des colonies qui ont presque ensevelli le BAI pour devenir ce que c'est aujourd'hui, comme l'installation que je vais faire. Mais donc, je ne sais plus si c'est toujours des polders ou pas, puisque l'échelle a tellement changé. Le rapport à l'architecture est toujours commun à ces deux projets initiaux et à la mémoire aussi. Mais plus du tout, il n'y a plus vraiment de lien formel, proprement parlé. Donc, peut-être que c'est toujours finalement le BAI qui continue à produire ça. C'est un de ses productions, mais en tout cas, ce n'est pas le BAI en tant que un module qu'on peut voir. Et voilà, donc disons que c'est une évolution pour moi qui est tout à fait normale, mais je n'arrive plus, quand on me demande alors est-ce que c'est des polders ou pas, c'est un peu embarrassant pour moi parce que j'en sais rien.
Des projets pour les mois à venir, puisque là, c'est les mois passés ont été riches en expositions.
Ouais, ouais. Eh ben, il y en a encore, oui, pas mal. En fait, là, je vais, après ce vernissage, repartir pour l'Italie, pour Manifeste, où je vais installer une pièce qui avait déjà été montrée ailleurs, à Nice. Ensuite, je reviens. Je prépare une installation qui va être présentée à la Maison Rouge à Paris en octobre. En septembre, je participe à une exposition au musée de Bergen en Norvège. C'est 3 expositions monographiques. Il y a 3 artistes qui investissent le musée. Ensuite, il y a encore d'autres expositions. Ça va être en fin 2009, début 2010 en Suisse et à Vienne. Oubliez-le. À Vienne. Donc voilà, ça, c'est encore un peu une année chargée.
Chargée, oui.
Mais assez intéressante parce que c'est souvent, à part quelques expos de groupe, ça va être des expos monographiques avec soit des nouvelles réarticulations, soit complètement des nouveaux projets.
Cet entretien fut réalisé le 3 juillet 2008 à l'occasion de l'exposition de Tatiana Trouvé au FRAC des Pays de la Loire qui se déroule du 6 juillet au 12 octobre 2008. Interview et montage, Eva Proutot.